Bonsoir. La conférence des gouverneurs s'est clôturée le mardi dernier à Goma sous la direction du président de la République. Face au constat de la faible maximisation des recettes des provinces, les gouverneurs ont recommandé entre autres le renforcement des capacités des régies financières provinciales. Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à payer les arriérés de rétrocession dus aux provinces et à reprendre le décaissement en leur faveur comme par le passé. Quelle analyse faire des recommandations issues de cette conférence? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. le gouverneur Julien Paluku. Bonsoir.
Oui, bonsoir M. le journaliste et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi ainsi qu'à tous les participants à la conférence.
Merci. Vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu et également porte-parole des gouverneurs de la RDC. Honorable Paulin Odiané, bonsoir.
Bonsoir mon frère Alain Hirong, bonsoir monsieur le gouverneur, bonsoir l'invité, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Merci également, vous êtes député provincial et président de la commission des ressources naturelles de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. Alkitenge, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes analyste économique et stratège. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Le gouvernement central et les provinces sont invités à fournir chacun dans ses compétences des efforts pour mobiliser des ressources nécessaires et dépenser de manière rationnelle et responsable. C'est l'une des recommandations de la 6e conférence des gouverneurs clôturée mardi dernier tard dans la soirée à Goma. Pendant 2 jours, sous la conduite du chef de l'État, les gouverneurs, les membres du gouvernement et d'autres personnalités invitées ont travaillé sur la mobilisation des recettes propres aux provinces et leur structure des dépenses. Rosalie Zawadi pour les détails.
Selon les comptes rendus publics des travaux, les conférenciers ont reconnu que la décentralisation financière demeure la clé de voûte de la réussite de toute décentralisation. Reste que les provinces ont un faible niveau de maximisation des ressources suite aux facteurs économiques, financiers et institutionnels. Elles recommandent le renforcement des capacités de leurs régies financières. Est ressortie aussi l'obligation du gouvernement central à soutenir les provinces. Ces derniers s'est donc engagé à payer les arriérés dû aux provinces et à reprendre les décaissements en leur faveur, ce qui permettra aux provinces, asphyxiées par plusieurs mois de rétrocession non versée, de respirer tant soit peu. Un engagement qui salue certains cadres des institutions publiques qui disent espérer que ce décaissement en faveur des provinces se fera dans un délai raisonnable. Les conférenciers ont donc analysé les moyens de mobilisation du potentiel fiscal existant pour que les provinces participent davantage à la dynamique de création des richesses. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Okapi.
Merci Rosalie Zawadi. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu et porte-parole des gouverneurs de la RDC. Sous quel signe a été placée cette conférence des gouverneurs, cette 6e conférence des gouverneurs?
Oui, merci beaucoup. Cette 6e conférence des gouverneurs a été placée sous le signe de la mobilisation des recettes propres aux provinces, comme l'a si bien dit le journaliste qui a fait le reportage. C'était donc à la suite de sorte de tâtonnements observés depuis tout ce temps où les provinces comptent à 80% sur les rétrocessions qui est un terme qui n'est pas acceptable par la Constitution parce que le terme accepté c'est la retenue à la source. Mais au regard de l'environnement politique, il a été convenu effectivement un autre terme qui s'appelle rétrocession. Et donc, il a été observé que les provinces seraient en train de marquer presque les pas. Voilà pourquoi le thème de cette conférence, c'était de réfléchir comment les provinces devaient accroître leur capacité financière pour dépendre de moins en moins de cette terminologie qui s'appelle rétrocession, qui fait effectivement que les provinces ont tendance à marquer les pas, étant donné que leurs budgets sont vraiment financés à 80% par ces recettes à caractère national.
Monsieur le gouverneur, dans son compte rendu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a dit, je cite, concernant la mobilisation des recettes des provinces et leur structure des dépenses, les provinces notent un faible niveau de maximisation des ressources. Cela est dû aux facteurs économiques, financiers et institutionnels. Pour expliquer ces facteurs dans les détails, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que cela voudrait dire en parlant des causes?
Oui, en parlant des causes, l'opinion devra savoir qu'au terme de la Constitution et des différentes lois, en fait, les provinces n'ont que trois impôts, ce qui relève de la compétence exclusive. Il y a l'impôt foncier, c'est-à-dire les maisons que détiennent les populations doivent payer un impôt sur la superficie de chaque maison. Il y a l'impôt sur les revenus locatifs, c'est-à-dire tout bailleur qui perçoit des frais de location devra verser entre 15 et 22% aux provinces. Il y a l'impôt sur les véhicules, c'est-à-dire les vignettes. Ce sont là les trois impôts spécifiques, exclusifs aux provinces, auxquels maintenant chaque province peut ajouter d'autres taxes spécifiques liées à son environnement, ceux qui ont le pétrole, ceux qui ont le bois, etc. C'est l'exemple de ce qu'on appelle la redevance minière pour les provinces qui ont les mines ou la redevance pétrolière. Maintenant, le faible niveau d'appropriation de la décentralisation par la population fait effectivement que ces impôts ne sont pas payés par la population. Deux, au niveau institutionnel, il y a quand même un problème. C'est que la difficulté du pouvoir central d'intérioriser effectivement la décentralisation est une cause. Parce que jusqu'à ce jour, il y a difficulté de transférer et les compétences et les ressources aux provinces, ce qui crée des problèmes. Un autre facteur causal, c'est notamment ce que j'appellerais l'instabilité des institutions provinciales. Parce qu'il y a des provinces qui sont aujourd'hui à leur quatrième gouverneur ou cinquième gouverneur. Ça apparaît comme un luxe de devenir gouverneur ou de gagner les élections, alors qu'en réalité, les élections actuellement constituent un recul, si pas marquer les pas. Parce qu'au lieu à ce que le gouverneur pense développement de sa province, comment maximiser les recettes, il y a une sorte de syndrome de la peur que développent les exécutifs provinciaux face à ce qui s'observe dans les provinces. Ça crée une sorte de réflexe de survie des gouverneurs qui les empêche effectivement à avoir une vision, à avoir des principes et à avoir des valeurs qu'il faut se regarder pour mieux gérer leur province. Ce sont là les quelques causes que je peux évoquer autour desquelles nous planchons souvent à partir de la conférence de Kisangani, suivie de celle de Kinshasa, de celle de Kananga et puis des deux autres qui ont été organisées à Lubumbashi avant de venir à Goma, que le président de la République a choisi et dont nous remercions la décision, parce que Goma a vibré au rythme de la conférence et toutes les populations ont senti que Goma était devenue la capitale momentanée de la RDC.
Alors, monsieur le gouverneur, il y a Ougen Mungwajue qui nous écrit de Kisangani dans la province de la Tchopo qui dit mais j'ai l'impression que les chefs de l'État et les gouverneurs font semblant de ne pas connaître la manière dont le pays fonctionne actuellement. Presque tous les gouverneurs des provinces ont été interpellés par les assemblées provinciales, par leurs assemblées provinciales respectives pour détournement des fonds publics et mauvaise gestion. Pensez-vous vraiment que la maximisation des recettes sera positive dans des telles situation?
Oui, moi je pense que les problèmes individuels ne doivent pas nous fermer les yeux face à ce que nous voulons comme État. L'État congolais se veut être un État décentralisé. S'il y a des individus qui peuvent d'un côté ou d'un autre pêcher par certains facteurs ou certains actes qu'ils posent, cela ne doit pas nous amener à remettre en cause la décentralisation. Je crois que aujourd'hui, le thème autour duquel nous avons planché, c'est de dire qu'est-ce que les provinces peuvent faire pour s'autonomiser davantage face aux difficultés qu'ils connaissent. Aujourd'hui, on est en train de dépendre à 100% des rétrocessions qui viennent de Kinshasa, mais ça fait 5-6 mois que ces rétrocessions ont été stoppées par une décision qui voulait effectivement qu'on se penche sur d'autres questions. Et étant donné que ces rétrocessions ne viennent plus, la difficulté maintenant pour les provinces, c'est de survivre. Et la conférence était de réfléchir par rapport à ça pour dire, à chaque fois qu'il y aura par exemple un blocage au niveau central, est-ce que les provinces devront être aux arrêts parce qu'elles dépendent simplement des fonds qui nous viennent des rétrocessions? Parce que le principe des 40%, on doit se le dire, n'a jamais été mis en œuvre et nous l'avons évalué à travers les récentes conférences. Si on mettait en œuvre le principe des 40%, effectivement, il n'y a aucune province au stade actuel qui devait survivre. Il n'y avait que les Katanga à l'époque, les Bas-Congo et Kinshasa. Mais toutes les autres provinces qui ont des recettes de 50 000 $ le mois, eh bien, vous lui rétrocédez 40%, eh bien, ça fait 20 000 $. Avec 20 000 $, il a une assemblée provinciale, il a un exécutif, il a des services, il est difficile de survivre. Mais je crois que nous devons analyser la main au cœur la décentralisation telle qu'elle s'exerce en RDC, elle n'est pas le faire par passion, sinon nous risquons de déplacer nos éléments d'analyse.
Alors, Monsieur le Gouverneur, qu'est-ce qu'on peut considérer comme les grandes recommandations issues de cette conférence?
Oui, parmi les grandes recommandations, c'est d'abord la formation des structures qui s'occupent de la perception des dépenses, disons, des recettes en province. Il faut que ces gens soient continuellement formés, parce que vous vous rappelez, la DGRAD elle-même a été créée en 1995, ça fait 22 ans, et n'a jamais réussi à mobiliser les recettes administratives domaniales et des participations jusqu'à ce jour. Donc la grande recommandation, c'est celle-là. On doit former continuellement les structures qui s'occupent de la perception des recettes. Des deux, nous avons adopté un système de la garantie souveraine. Tous les États du monde ne se développent pas avec les recettes locales, avec les ressources locales. Et les provinces ont estimé que l'État central devra donner une garantie aux différents fonds qui circulent à travers le monde pour que ces fonds viennent créer des richesses en province. Lorsque les fonds viendront créer des richesses en province, cela va permettre d'accroître la capacité mobilisatrice des provinces et ainsi affronter les problèmes de développement. C'est l'une des grandes recommandations sorties de la conférence des gouverneurs tenue à Goma.
Merci, Monsieur le Gouverneur Julien Paluku. Honorable Paulin Odiané, vous êtes député provincial et président de la Commission des ressources naturelles de l'Assemblée provinciale du Haut-Uele. Comment vous analysez ces recommandations issues de cette conférence, sixième conférence des gouverneurs?
Merci beaucoup pour la question. J'étais d'abord à dire que nous devons reconnaître que les différents textes qui organisent les pays ont mis sur pied des ressources propres aux provinces. Nous avons parmi les ressources propres de la province les impôts, les taxes, les droits provinciaux et locaux, ainsi que les recettes de participation. Nous avons également les ressources provenant des recettes à caractère national, dont notamment les 40%. Nous avons les ressources exceptionnelles, dont les emprunts intérieurs, les dons et les legs. Donc, si on se tient au texte, les 40% devraient être retenus à la source, conformément donc à la Constitution et la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Donc, la retenue devrait se faire au niveau de la banque, un mécanisme direct pour les 40%. À part le problème des recettes, à part les ressources des provinces, nous avons la difficulté au niveau de mobilisation des recettes. Donc, vous avez suivi M. le gouverneur parler de les capacités même des hommes qui sont recrutés dans les régies financières pour mobiliser les recettes. Et dire qu'il faut maintenant, au moment où nous parlons, chercher à connaître la capacité de mobilisatrice de chaque province, bon, je trouve ça comme inopportune, parce que depuis qu'on a commencé avec les provinces, ça fait autant d'années, il y a des lois qui ont donné des taxes et des impôts aux différentes provinces de la République, et tout le monde sait que non, telle province peut percevoir dans tel secteur. Et nous savons ça très bien. Et s'il n'y a pas mobilisation, c'est tout simplement parce que les régies financières sont transformées à des structures privées. C'est-à-dire, ce sont des structures de certains gouverneurs qui pensent que la régie financière, c'est leur boutique. Ils peuvent mettre même des incompétents dans ces structures qui ne maîtrisent rien de la fiscalité, et avec des hommes pareils, il ne faut pas s'attendre à un résultat meilleur. Donc le problème de la mobilisation des recettes réside d'abord au niveau de la vision politique de ceux qui dirigent les provinces. Donc si on doit prendre ses frères, on doit prendre ses cousins, les mettre dans cette structure sans aucune formation universitaire, sans aucune formation fiscale, on ne peut jamais s'attendre à un résultat.
Honorable Odiané.
Et en même temps.
Honorable Odiané, parmi ces problèmes, la conférence des gouverneurs a énuméré aussi des problèmes institutionnels. Il y a aussi cette difficile cohabitation entre vous, les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Vous, députés provinciaux, vous mettez les gouverneurs sous pression, vous leur demandez de l'argent sous peine d'émotion et tout ça, ça complique la mobilisation des recettes aussi au niveau des provinces.
On ne doit pas échapper au vrai problème. Le vrai problème est que nos provinces sont mal gérées. Donc, il suffit d'être gouverneur et vous prenez la province comme votre bien privé. Vous commencez à gérer comme votre boutique personnelle. Il n'y a pas de transparence, il n'y a pas d'échelle de dépenses. Donc, excepté certaines autorités provinciales qui respectent l'échelle de dépenses, mais je pense que la majorité ne respecte pas. Si vous prenez la ville de Kinshasa, mais monsieur le gouverneur vient de parler de l'impôt foncier. Si vous prenez les ponts fonciers de la ville de Kinshasa, ça va vous rapporter combien d'argent? Est-ce que au niveau de la ville de Kinshasa, on peut avoir besoin des recettes à caractère national? Moi, je ne crois pas parce qu'il y a énormément de recettes. Mais la ville de Kinshasa pleure chaque jour. Si vous arrivez de la ville de Kinshasa, même à la Gombe, il y a des saletés partout. Alors, nous ne pouvons pas dire que non, c'est le problème des députés. Donc, le problème réside au niveau de la transparence dans la gestion. La gestion n'est pas orthodoxe. Demander, il fallait qu'on fasse l'évaluation même des recettes au niveau de province. Est-ce qu'on a pu examiner pourquoi les provinces ne mobilisent pas assez de recettes? Est-ce qu'il y a la transparence dans la gestion? Est-ce qu'il y a la transparence dans la mobilisation des recettes? Parce qu'il y a des autorités provinciales qui ont créé des comptes parallèles où les recettes de la province transite dans des comptes non reconnus par la province. Est-ce que ça, c'est le problème de la motion? Ce n'est pas le problème de la motion.
Donc,
la motion doit suivre tous les gouverneurs qui ne respectent pas la gestion de la chose publique.
Honorable Diané, voulez-vous dire que la conférence des gouverneurs a éludé les véritables problèmes?
On n'a pas traité les vrais problèmes. On n'a pas traité le vrai problème du fait que on n'a pas posé la question à ces gouverneurs comment ces gouverneurs gèrent leur province. Il y a des gouverneurs qui se sont transformés pratiquement des dictateurs. Ils sont des dictateurs, ils ne peuvent rien suivre de l'Assemblée provinciale, qu'ils ne peuvent rien, ils ne veulent pas qu'on les critique, qu'on critique leur gestion. Ils sont devenus pratiquement des dictateurs. Alors des hommes pareils qui ne supportent pas des critiques, qui ne supportent pas qu'on parle de leur gestion.
Merci.
Si on parle de la gestion, on fait sortir la police pour arrêter les gens, ainsi de suite. Comment on peut s'attendre à un résultat palpable qui peut nous pousser vers le développement? Tout
Merci.
Le monde regarde vers Kinshasa. Alors qu'au niveau de la province, ou au niveau des provinces, on peut mobiliser des recettes si on a cette volonté de bien gérer la chose.
Merci,
pour
honorable.
Général.
Merci. Merci, honorable Diané. Alkitenge, vous êtes analyste économique et stratège. Comment vous analysez les recommandations issues de cette conférence? Vous avez suivi l'honorable Diané qui estime que la conférence n'a pas traité les véritables problèmes des provinces.
Merci beaucoup, Alain. Je vais en profiter d'ailleurs pour saluer le gouverneur Paluku et l'honorable Diané et dire de manière assez simple que lorsque vous entendez les autorités publiques se plaindre, c'est qu'il y a un très sérieux problème parce que le rôle des autorités publiques, c'est de donner des solutions. Et si les autorités elles-mêmes sont aux abois, ça fait peur. Ça fait peur aux citoyens. Mais moi, je voudrais simplement dire que lorsque on écoute le compte-rendu de tous les travaux qui ont eu lieu à Goma, on a l'impression qu'il n'y a pas d'innovation. On est exactement dans la même situation de l'époque. On évalue l'existant, on s'aperçoit qu'on n'a pas été discipliné de manière globale. Mais on s'aperçoit aussi qu'on n'a pas un contrat véritable avec les populations et on n'a pas non plus d'indicateurs de performance. Et du coup, on remet les problèmes de routine sur la table et on discute. Mon approche est la suivante. À partir du moment où on parle de la mobilisation de recettes, il faut savoir qu'on mobilise des recettes sur les dépenses et donc sur l'économie. Or, tout le monde sait très bien que nous sommes dans une économie d'une pauvreté assez forte et il y a une grande partie des provinces qui aujourd'hui sont essentiellement rurales. Et tout le monde sait très bien que 80% de notre population vivent dans les milieux ruraux et détiennent très peu de richesses. Et donc, si nous ne faisons pas attention à essayer de faire fonctionner les différents instruments qui avaient été mis à la place au départ, dont le fonds de péréquation, il va être très difficile d'inséminer le développement à la base. Je pense que le contrat social est de dire il y a des provinces qui ont un peu plus d'atouts que d'autres dès le départ. Mais toute la question, c'est de dire la cartographie de la richesse congolaise devrait être répartie sur toute l'étendue de la République, de sorte que l'effort des citoyens puisse être en mesure de contribuer à l'économie nationale. Cela veut dire que, en fait, il y a des endroits où l'État devrait décider d'inséminer un peu plus d'argent pour que, à terme, les gens atteignent la masse critique pour être en mesure de contribuer à l'État. Ma plus grande crainte, c'est d'essayer de penser qu'on peut continuer à gérer ce pays en assurant les affaires courantes. Il y a un vrai problème. Nous sommes dans un pays où il y a 140 groupes armés. C'est une urgence, c'est un impératif, il faut les stopper, il faut arrêter ça, parce que sans ça, nous aurons toujours l'économie de la guerre. Et à mon avis, nous devons remplacer l'économie de la guerre par la guerre économique. Et pour ça, on a besoin des plans stratégiques provinciaux qui vont remettre en place, comment j'appelle, les contrats sociaux entre les gouvernants, je veux dire les gouverneurs et les assemblées provinciales, et les gouvernés. Et il est important que l'on mesure de manière assez claire la diversité de ce pays, la manière de poser les problèmes dans l'ancien Katanga, dans sa diversité, n'est pas nécessairement la même que dans l'ancienne province orientale, dans sa diversité. Et donc, moi, je pense que le premier travail des gouverneurs devrait être de faire les monographies économiques de leur province pour permettre de mettre en place un plan stratégique et même mettre en place des instruments de base pour être en mesure d'attirer des investissements. Je pense d'ailleurs que chaque province devrait se doter d'une agence provinciale de promotion des investissements. C'est en investissant qu'on peut espérer réveiller l'économie. C'est en réveillant l'économie qu'on peut espérer mobiliser les recettes. On ne mobilise pas sur rien. Et à côté de ça, je pense qu'il y a une importance capitale à relever, c'est que aujourd'hui, il y a une rupture entre les citoyens et les dirigeants. Et je pense simplement que quand vous dites mobilisation de recettes, les gens ont l'impression qu'on vient leur voler de l'argent. Je pense qu'il faut rétablir le contrat. Le contrat, c'est mobiliser les ressources, mais également les renvoyer dans la communauté au travers des services publics. Et je pense qu'il est important, et une des choses que moi je voudrais vraiment souhaiter, c'est que dans la prochaine conférence des gouverneurs, on mette en place un ensemble d'indicateurs de performance pour être en mesure de comparer les différents gouverneurs avec les ressources qu'ils ont et leur capacité d'innover et les résultats qu'ils donnent. Sinon, ce sera toujours des réunions politiques et quand les gens rentrent dans leur province, il n'y a pas de résultat.
Alors comment peut-on mettre en place des indicateurs de performance lorsque qu'une province connaît 3 à 4 gouverneurs en moins de 6 mois, en moins d'une année?
Le problème est que très malheureusement, on ne s'aperçoit pas que l'histoire de l'État est une histoire de continuité. Même si on avait des changements répétitifs, si les bases de gestion étaient là, je pense simplement que les États fonctionneraient normalement. C'est pour ça que je dis, au niveau national comme au niveau provincial, le problème du casting doit venir après les structures. Moi, par exemple, j'ai un gros regret à constater que nous sommes un pays qui est géré encore comme si nous étions au XXe siècle. Nous sommes dans l'ère de l'informatique. Déjà au niveau central, comme au niveau provincial, nous devrions aller dans la course vers l'informatisation parce que ça permet d'identifier le portefeuille électronique et économique que nous avons pour être en mesure d'organiser la capture des fonds qui circulent. Vous avez parlé tout à l'heure, l'honorable a parlé du nombre de véhicules qui roulent dans la ville de Kinshasa, du nombre de parcelles qu'il y a dans une ville comme celle-ci. Lorsque vous regardez l'incapacité que nous avons à pouvoir saisir ce potentiel économique qu'il y a, c'est simplement lié au fait que nous travaillons encore sur du papier. Et je pense que autant des grandes villes comme Kinshasa qui ont le dividende démographique, autant d'autres provinces qui ont le dividende spatial, nous devrions être en mesure de mettre en place des stratégies qui permettent de mettre les citoyens à contribution, mais en contrepartie à leur donner du service public.
Alors, quand vous proposez la mise sur pied des plans stratégiques provinciaux, est-ce que vous voulez dire que les 26 provinces de la RDC naviguent à vue?
C'est le cas de le dire, ils naviguent à vue, elles naviguent à vue exactement comme le pays lui-même. Nous n'avons pas de plan de développement général du point de vue national. C'est aussi comme ça que les gouverneurs, quand ils arrivent, ils expédient les affaires courantes, ils essaient de faire tant bien que mal ce qu'ils peuvent pour être en mesure de se soutenir. Et si, en plus de ça, ils ont leur stabilité politique liée aux différentes guerres de pouvoir, bien entendu, les gens, comme l'a dit le gouverneur Paluku, passent le temps à essayer de rester en place. Et c'est déjà un exercice d'instabilité incroyable.
Merci. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Bahamé de Bukavu, au sud Kivu. À mon avis, cette conférence de gouverneurs d'avant-hier, comme les précédentes, n'atteindra jamais leurs objectifs. Il y a lieu de constater que souvent, lors de leur tenue, elles éludent la vraie question à la base du non-développement des provinces. En d'autres termes, les conférences de gouverneurs ne font que malheureusement s'attaquer aux conséquences de l'effet du processus de décentralisation au lieu de s'attaquer à ses vraies causes. finalement, je me demande s'il faut combien de conférences de gouverneurs pour que les provinces du RDC puissent se développer.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku.
Oui, j'ai bien suivi l'auditeur, mais je crois qu'il faut qu'il lise bien l'article 200 de la Constitution qui a institué la conférence de gouverneurs. Cette conférence a pour mission simplement d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener et la législation à édicter. C'est cela aussi le problème que nous avons. Nous pensons que la conférence est une instance de décision. Non, l'article 200 précise bien que la conférence a pour mission d'émettre des avis et de former des suggestions sur la politique à mener, et même sur les législations. Quelle histoire ne marche pas, les gouverneurs vont se mettre en place, ils parlent de la situation du pays. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la conférence a lieu, elle commence par faire un état des lieux de chaque province pour que l'on puisse explorer les différents problèmes qu'il y a dans chaque province et évidemment à envisager des solutions. La conférence a des commissions. Le compte-rendu public que vous avez suivi, c'est un compte-rendu public, mais les trois commissions ont pu siéger et ont formulé des tableaux qui indiquent les indicateurs vérifiables sur cette telle question, telle autre. Il y a une commission sociale, économique et financière, il y a une commission politique, administrative, juridique et sécuritaire, et une commission de reconstruction et développement. Toutes ces matières ont été traitées. Et comme le thème, c'était la mobilisation des recettes, eh bien le compte-rendu public n'a visé que les thèmes qui étaient concernés et qui devaient permettre à ce que la population sente effectivement le niveau d'appropriation de cette conférence, de la matière qui était à l'ordre du jour. Donc il n'est pas à dire que non, la conférence n'a pas traité de vrais problèmes, comme l'a si bien dit l'honorable qui est avec nous dans le débat. Il faut être membre de la conférence pour savoir si elle a réellement traité le problème et connaître la mission de la conférence. Je crois que je voulais donner cette précision pour qu'on ne puisse pas effectivement aller à gauche, à droite, sans connaître la mission de la conférence des gouverneurs.
Monsieur le gouverneur, pour faire le lien entre ce qu'ont dit l'honorable Odiane et Alky Tengue, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que les provinces ne parviennent pas à maximiser les recettes parce que, comme l'a dit l'honorable Odiane, ces provinces sont mal gérées et, comme l'a dit Alky Tengue, faute d'un plan stratégique provincial?
Mal géré, je ne saurais pas me prononcer sur la mauvaise gestion de chaque province, mais je sais par ailleurs que la Constitution et les différentes lois ont institué des organes, à savoir la Cour des comptes et l'inspectorat général des finances, pour venir voir comment les comptes des provinces sont gérés. Moi, je peux affirmer que le Nord-Kivu, lui, chaque année, est inspecté par la Cour des comptes. La Cour des comptes élabore un rapport pour donner des observations sur la manière dont la province est gérée. Et devant l'Assemblée, nous défendons l'édit sur la reddition des comptes pour que, effectivement, les députés même voient la manière dont l'année écoulée a été gérée, les dépenses, les recettes, etc. Donc, je pense que aujourd'hui, prendre une décision globale ou de dire que non, toutes les provinces sont mal gérées, je ne peux pas l'affirmer, mais je dois dire qu'il y a un problème d'homme. Hein. Il peut y avoir un problème d'homme dans une ou une autre province, mais cela ne doit pas être un cas général parce qu'on a senti que dans telle province, il y a eu des insuffisances constatées. Je sais par ailleurs que nous sommes dans un début d'exercice de la démocratie, de la décentralisation. Il y a toujours des tâtonnements observés ça et là. C'est que même en France, où on a décentralisé depuis 1982, eh bien aujourd'hui, on continue toujours à innover, on continue à apprendre. C'est pourquoi, pour pallier à ça, la conférence a recommandé une formation continue des acteurs, tous les acteurs, qu'il s'agisse de ceux du gouvernement central et de ceux ou de ceux du pouvoir central, parce qu'il n'y a pas de donneurs de leçons d'un côté et de receveurs de l'autre. Tous nous sommes dans un apprentissage de ces nouveaux modes de gestion du pays et nous devons apprendre chaque jour qui passe.
Merci Monsieur le gouverneur, honorable Paulin Odiane, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
C'est Joseph Kaki, c'est à partir de Kindu dans la province du Maniema. Je suis très inquiet du comportement qu'a affiché le gouvernement provincial du Maniema à ce qu'il a réduit à la baisse le salaire des agents de la Direction générale des recettes du Maniema, soit 30% de moins. Cette situation dure une année et demie et cela sans un motif valable. Cette situation a comme corollaire une fraude généralisée, la non-canalisation des recettes et un manque à gagner pour la province. Et je demanderai aux autorités de revoir à leur décision afin de remettre les 30% aux agents et fonctionnaires de la DGRM.
Honorable Odiane.
Merci beaucoup. Je crois que le problème posé par votre auditeur, c'est un problème réel. Et également, il y a des provinces où on ne paye pas les gens de la régie financière. Donc, ça se passe partout comme ça. Et c'est le problème réside au niveau de la gestion de la chose publique. Mais nous disons à monsieur le gouverneur que le vrai problème dont nous faisons allusion ici, ça concerne la mobilisation des recettes. Ce n'est pas des problèmes qui viennent d'ailleurs. Nous parlons des problèmes de la mobilisation des recettes. Il y a le vrai problème. On doit questionner les autorités provinciales. Pourquoi elles ne mobilisent pas les recettes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous savons pertinemment que les recettes ne sont pas bien canalisées. Les recettes prennent d'autres directions, les directions non officielles. Monsieur le gouverneur a parlé des cours des comptes et l'inspection générale des finances. J'ai passé beaucoup de temps à l'Assemblée, je connais comment fonctionne cette structure, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, et nous maîtrisons comment ces gens, comment ils viennent au niveau des provinces, qu'est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. Nous savons qu'on ne peut pas attendre grand-chose de tout ça. On ne peut pas attendre grand-chose. Je crois que nous avons suivi sur vos ondes de la radio Capi un rapport publié par un observatoire. Mais alors que ce rapport qui est publié, qui devrait sanctionner? Donc les institutions comme la Cour des comptes qui devraient faire un rapport efficace, même si ce rapport était fiable, si on remet au Parlement, est-ce que le Parlement va sanctionner? Parce que nous, également nous députés, nous sommes responsables de la dégradation de la situation au niveau des provinces, même au niveau national. Nous ne contrôlons pas le gouvernement. Nous sommes là pour subir, les dictats.
Honorable
Donc
Diané.
On ne peut pas s'attendre à grand-chose.
Honorable Odiane, est-ce que le fait pour les gouverneurs de ne pas parvenir à arracher la retenue à la source des 40%, est-ce que cela voudrait dire que Kinshasa veut la décentralisation et son contraire?
Non, j'ai dit dès le début que le problème de notre pays, c'est tout simplement le non-respect des textes. Les gens ne veulent pas respecter les textes. Nous avons des beaux textes, mais personne ne peut se donner le luxe de respecter les textes. Non, la Constitution et même la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces parlent de la retenue à la source. Et cette loi dit même clairement que ce mécanisme est exécuté par la Banque centrale du Congo, conformément à la loi financière. Donc la retenue à la source s'effectue par un versement automatique de 40% dans les comptes même de la province et 60% dans les comptes généraux du Trésor. Mais est-ce que la loi n'a pas prévu ça? La loi a prévu. Est-ce qu'il peut respecter? Personne ne peut respecter. Et tout le monde croit qu'il faut parler de la rétrocession, il faut aller à Kin, il faut chaque fois que le gouverneur se déplace pour aller à Kin, pleurnicher, comme si ce n'est pas un droit, comme si ce n'est pas prévu dans les textes. Et les gouverneurs, ils ont accepté volontiers la rétrocession. J'ai suivi M. le gouverneur parler du terme illégal, la rétrocession. Mais est-ce que les gouverneurs ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle? Ils ne peuvent pas. Alors que la loi ou les lois de la République ont prévu tous les mécanismes possibles en cas de conflit entre la province et le gouvernement central, on peut saisir le Cour des tribunaux. Mais on ne saisit pas, on croise les bras parce qu'on a peur de saisir. Mais comment nous allons vivre cette décentralisation? Et comment nous allons vivre cette démocratie aussi longtemps que nous ne voulons pas respecter les textes? Donc, c'est le problème de la volonté politique. La volonté politique n'existe pas. Et même pour les provinces qui ont des sociétés minières, on parle de 40% qui doivent revenir aux provinces. Et les 40% pour que
ça soit versé dans les comptes des provinces en question, c'est tout un problème. Il faut Merci. Passer du temps à aller à Kin et ainsi de suite pour s'agenouiller, demander et ainsi de suite, et avec tous les mécanismes possibles que vous savez, que vous connaissez. En principe, le gouverneur ne doit pas faire des navettes chaque jour.
Merci, honorable Odiane. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Alki Tenge, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Direko Masunga, depuis Kinshasa, l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en détourne. Tenez, le découpage des provinces était une mauvaise chose qui a amené le pays jusqu'à ce niveau. Car le gouvernement n'avait pas de moyens pour le bon fonctionnement de toutes ces 26 provinces. Et par conséquent, nous voyons toutes ces aventures qui se passent actuellement dans nos provinces.
Dans le même sens, Alki Tenge, j'ajoute cette réaction d'Adonis qui nous écrit de Kolwezi Olualaba, qui dit « Cette conférence est une preuve que la présence de la République vient de prendre acte de l'échec du découpage qui a accouché de 26 provinces prématurées et les résultats sont médiocres aujourd'hui parce que pour des raisons inconnues, la nation congolaise s'est livrée précocement dans une aventure qui exigeait beaucoup de moyens. »
Merci beaucoup Alain. J'ai déjà donné mon point de vue sur cette question et je vais encore le redonner. Le découpage en 26 provinces est à mes yeux l'acte politique le plus important de toute la gestion du président Kabila. La seule chose que les gens ne veulent pas regarder, c'est que le découpage nous a permis de voir ce que nous avons toujours refusé de voir. Ça veut dire 80% de notre population vit dans la misère la plus totale et nous regardons le boulevard du 30 juin et nous pensons que c'est ça la vie. Ou nous regardons les boulevards de la ville de Lubumbashi et nous pensons que le Katanga est comme ça. Ou nous regardons les boulevards de la ville de Goma et nous pensons que toute la province du Nord Kivu est comme ça. Je crois simplement que nous devons être sérieux et nous devons être citoyens. Le découpage nous permet de découvrir qu'une grande partie de notre population n'avait aucun service public et que de manière égoïste, nous étions en train de consommer, et seuls les gens qui sont dans les grandes villes, toutes les ressources de l'État. Et avec aujourd'hui le découpage, non seulement le problème est posé, maintenant il est donné à la capacité des gouverneurs, la possibilité d'innover et d'aller à la recherche des moyens innovants pour être en mesure de pouvoir donner un temps soit peu un lien avec la République. Laissez-moi vous dire une chose. Les 140 groupes armés que nous avons sont essentiellement en milieux ruraux, des milieux où il n'y avait pas d'activité publique. Et je pense simplement que ça, c'est quelque chose qui devrait être en mesure de nous réveiller. Nous ne pouvons pas reculer. Mais je voudrais simplement dire une chose. Les seules personnes qui peuvent réellement donner vie à ces 26 provinces existantes aujourd'hui, ce sont les gouverneurs et les comités avec lesquels ils travaillent. Sans une gestion de proximité, on aurait eu une grande partie de nos populations complètement coupées de la République et ils seraient devenus mercenaires.
Alors, le gouvernement s'est engagé à payer les arriérés de rétrocession dues aux provinces et à reprendre le décaissement en leur faveur comme par le passé. Croyez-vous à cette promesse du moment que l'on sait que Kinshasa se plaint tout le temps du manque de moyens?
Je crois simplement que ce pays est indivisible. S'il n'y a pas d'argent pour tout le monde peut comprendre. S'il y a un peu d'argent, il doit y en avoir un peu pour tout le monde. Et ça, c'est de l'équité politique. Je crois simplement que le gouvernement a l'obligation de montrer de manière transparente la disponibilité des moyens, être en mesure de les mettre à la disposition de tout le monde. Je voudrais simplement dire une chose. Lorsque vous ne nourrissez pas la poule aux œufs d'or, vous n'aurez pas les œufs. C'est aussi simple que ça. Et si on désire atténuer les 140 groupes armés, il faut donner un lien entre les citoyens et la République. Et donc, il faut semer de l'économie au niveau de la base. Vous savez, la plupart des gens qui se retrouvent dans ces rébellions, c'est des gens qui sont frappés par une pauvreté extrême et qui sont frappés par des maladies que nous n'avons pas en milieu urbain, simplement parce que ces gens n'ont ni école, ni centre de santé normal. Il faut comprendre ça comme ça. C'est une donnée sociologique. Et je crois simplement que le gouvernement a l'obligation de comprendre que nous avons le devoir d'aller chercher l'argent là où il est et nous devons être en mesure de le semer sur toute l'étendue de la République et donner une chance à chaque citoyen où qu'il soit.
Et donc il faudrait très vite couvrir ce fossé entre les populations locales et les gouvernés.
Je pense qu'il est très important d'avoir une grande ambition pour les citoyens congolais où qu'ils soient et être en mesure de leur donner des opportunités pour qu'ils trouvent des raisons de se développer dans la vision de l'État. Aujourd'hui, une grande partie de notre population est complètement déconnectée de l'État, simplement parce que l'État n'a aucun service, ni de proximité, ni de loin avec les citoyens. Et je pense que le découpage était une excellente chose qui nous permet de rapprocher de manière sérieuse les gouvernants, des gouvernés, mais
maintenant, il appartient à chaque gouverneur de créer le contrat social, de mettre en place les outils nécessaires pour être en mesure de mettre les citoyens au service.
Alki Tengue, parmi les recommandations, la conférence a recommandé au gouvernement central de recenser tous les contrats miniers échus pour permettre aux provinces et à d'autres investisseurs d'investir dans ce secteur. Ne faudrait-il pas diversifier l'économie aujourd'hui?
Il faut absolument diversifier l'économie, et diversifier l'économie à deux volets. Le premier volet, il est géographique. Il est important que la République respire de partout, que nous ayons toutes les parties de la République qui contribuent à l'économie du pays. C'est pour ça qu'on parle de l'économie nationale. La deuxième, c'est la diversification verticale. Et c'est ici que je disais, on a besoin que chaque province ait un plan stratégique provincial. Pourquoi ? Parce que il fera l'inventaire des potentiels de la province et il donnera les outils nécessaires pour être en mesure d'attirer les investisseurs. Et là, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir des agences provinciales de promotion des investissements. Et je crois que les gouverneurs, ils ont des territoires qui ont la taille des pays européens. Ils doivent se prendre au sérieux et se rendre compte qu'ils ont deux leviers. Le premier levier, c'est l'espace, et donc sur lequel ils peuvent se déployer, ils ont besoin d'infrastructures. Le deuxième levier, c'est le capital humain. Mais un capital humain sans pouvoir d'achat, ça ne sert à rien. Il faut donner les moyens aux gens. Et la seule façon de donner les moyens aux gens, c'est de leur donner des opportunités de travail. Et moi, je pense aussi qu'une chose extrêmement importante, c'est qu'il faudrait mettre en place une plateforme d'échange d'expérience. J'ai entendu le gouverneur le dire de manière assez régulière. Il est important que les gouverneurs échangent d'expérience sur ce qu'ils font bien et ce qu'ils font mal, de sorte que les gens apprennent les uns des autres. Mais pour ça, on a ce qu'on appelle les plateformes électroniques d'échange d'informations. Merci. Et il est important que l'interconnexion entre les provinces soit électronique.
Monsieur le gouverneur, je le disais tout à l'heure, le gouvernement central s'engage à payer les arriérés dus aux provinces. À combien pourraient s'élever ces arriérés brièvement? Et est-ce que vous croyez vraiment que cette promesse sera tenue?
Oui, merci beaucoup. Moi, je crois que ce ne sont pas les arriérés qui vont aider les provinces à se développer. Il est vrai que les provinces acquisent entre 5 et 6 mois, certains 7 mois d'arriérés. Eh bien, le gouvernement s'est engagé à revenir au paiement comme par le passé. Mais moi, je crois que la difficulté majeure pour les Congolais, c'est de croire que un pays peut se développer par une génération spontanée, c'est-à-dire en une année, en deux ans, on voit les indicateurs de développement changer. Je crois qu'il faut davantage développer une vision qui s'inscrit dans la durée pour qu'on dise les animateurs actuels ne sont pas nécessairement eux qui vont nous amener au développement total, global, intégré et intégral. Il faut que simplement les gens sachent que un animateur d'une institution peut planter les décors de ce qui sera fait demain. Mais l'impression que nous avons, c'est que tout le monde attend que tout change par ce qui gère actuellement. Non, les pays ne se gèrent pas comme un foyer où les gens cherchent à manger et le soir ils pensent que le problème est résolu.
Et en tout cas, davantage, le gouverneur,
les Congolais sachent que nous devons nous inscrire dans une vision de 20, 30, 40 ans, planter les décors, évaluer régulièrement les indicateurs. Merci. Pour que nous placions la population dans l'espérance de devoir voir un jour la misère être résolue.
Merci, monsieur le gouverneur. Honorable Paulin Odiané, il faut placer les actions dans une vision qui s'inscrit dans la durée. Il faut un plan stratégique, national, provincial, comme a dit Alki Tengue. Est-ce que vous partagez ce point de vue en guise de conclusion?
Merci beaucoup. Je crois que ce que monsieur le gouverneur est en train de dire, c'est une bonne chose, mais nous devons tout simplement savoir que le développement, ça se prépare. Il faut mettre sur pied des mécanismes appropriés qui poussent l'entité vers le développement. Mais si vous avez des autorités qui ne balisent même pas les chemins pour le développement, mais qui sont là à train de bousiller tout, il n'y a pas de transparence dans la gestion. Au niveau de la régie financière, on ne maîtrise pas la capacité même de la régie financière. On ne sait pas par an, on mobilise combien par mois, c'est combien, on ne maîtrise absolument rien. Et on va dire que non, voilà, il faut garder ces hommes-là parce que ils sont à train de baliser le chemin vers le développement. Moi,
merci.
Je ne crois pas.
Merci.
Donc le problème est qu'il n'y a pas de signaux forts.
Merci, honorable Diane.
Ces hommes qui dirigent.
Merci. Alki Tengue, conclusion.
Je suis heureux de me rendre compte que les deux co-débatteurs avec qui j'ai pu discuter ce soir sont d'accord qu'il nous faut une vision, il nous faut un plan stratégique, il nous faut des indicateurs. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il nous faut également des citoyens informés, capables de constituer une espèce d'observatoire des performances publiques.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Réalisation Guimat et supervision Pelekipe Lamondo. Mise en onde Jean-Claude Nsiala. Présentation et coordination Alain Rung Mouchinge. Recevez nos voeux de paix et de santé pour 2018. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Au revoir.